France Musique.
Huit heures, c'est l'heure du journal, présenté par Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous. Balayant d'un revers de la main les sondages toujours très favorables à Joe Biden, son adversaire démocrate Donald Trump croit plus que jamais à sa victoire. Le président sortant, qui a multiplié les meetings jusqu'à la dernière minute, suivra aujourd'hui cette journée de vote depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington. Même si près de 100 millions d'électeurs ont déjà fait leur devoir, on s'attend aujourd'hui à de longues files d'attente devant pratiquement tous les bureaux de vote américains. Ces dernières semaines, la campagne électorale a été pour le moins rugueuse et anxiogène entre la remontée des courbes du Covid-19 et la crainte de voir cette élection basculer dans la violence. Loïc Loury nous appelle de New York.
Des commerces qui se barricadent à Washington ou à New York. Les images rappellent les émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd. L'inquiétude pourtant concerne bien cette présidentielle. D'après USA Today, les électeurs seraient 75% à craindre des violences post-électorales. Le refus de Donald Trump de s'engager à un transfert pacifique du pouvoir, en particulier, n'a fait que chauffer à blanc les deux camps. On verra bien ce qui se passe. Vous savez, je me plains très souvent du vote par correspondance. C'est un désastre. Des déclarations répétées sur de prétendues fraudes électorales ou sur le spectre d'un cauchemar socialiste, le président a exacerbé les tensions d'une Amérique ultra polarisée. Ces derniers jours, la prise à partie d'un bus démocrate au Texas par des républicains l'a encore rappelé. Les armureries, elles sont prises d'assaut. À New York, le maire a d'ores et déjà annoncé préparer la ville à des manifestations et à des cortèges adverses. Mais tout cela, bien sûr, dépendra de l'issue du scrutin. Une victoire rapide, incontestable de l'un ou l'autre candidat pourrait limiter tout débordement. Donald Trump, lui, suivra l'élection depuis la Maison-Blanche, derrière plusieurs clôtures.
Alassane Ouattara, réélu pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire, il obtient officiellement plus de 94% des voix, mais le scrutin a été massivement boycotté par l'opposition. L'Amazonie continue de brûler et plus que jamais le monde regarde ailleurs. Le mois d'octobre a cette année battu de nouveaux records sans que cela provoque beaucoup d'émotions internationales. Des sanctuaires brésiliens de biodiversité sont ainsi partis en fumée du côté du Paraguay et de la Bolivie. Les ONG et les spécialistes de l'environnement continuent de pointer la responsabilité du gouvernement de Jair Bolsonaro, qui encourage plus que jamais les opérations de déforestation. À Rio de Janeiro, c'est une correspondance d'Anne Vigna.
Le chiffre est précis et très inquiétant. Les incendies ont encore augmenté en Amazonie brésilienne, et cette fois de 121% en ce mois d'octobre par rapport à octobre 2019. 17 326 feux de forêt ont été répertoriés pendant ces 30 derniers jours, selon le programme incendie de l'Institut national de recherche spatiale qui mesure la déforestation au Brésil. En comparaison, ce sont près de 10 000 incendies de plus qu'il y a un an. En octobre 2019, cet institut avait comptabilisé 7 855 départs de feu. Ces données sont d'autant plus inquiétantes que l'utilisation des techniques de brûlis sont toutes interdites depuis mai dernier. De plus, le gouvernement vante l'action de son armée et son opération vers Brésil contre les incendies, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous de toute évidence. Les militaires n'ont pas l'air d'impressionner beaucoup les criminels qui se savent soutenus au plus haut niveau. Jair Bolsonaro nie l'existence même de ces feux et a délibérément diminué le budget de l'IBAMA, la police de l'environnement au Brésil, bien plus efficace que l'armée sur ces sujets. Plus au sud, au Pantanal, la plus grande zone humide de la planète connaît elle aussi des incendies inédits cette année. 23% de sa superficie est partie en fumée, là encore par des feux d'origine humaine.
Et puis encore 24 heures de tolérance pour les grandes surfaces. Bercy leur donne jusqu'à demain pour condamner d'une manière ou d'une autre les rayons dédiés aux fameux produits considérés comme non essentiels. La liste des produits de première nécessité sera, elle, connue dans la matinée via un décret publié au Journal officiel. Cette solution gouvernementale assumée par Jean Castex dimanche soir à la télévision est loin de satisfaire les commerçants petits et grands. Ils sont nombreux en effet à réclamer une réouverture dès que possible, car certaines situations deviennent critiques, comme le souligne Eric Mertz, le président de la Fédération nationale de l'habillement. Il est interrogé par Anne-Laure Jumet.
Aujourd'hui, j'ai des entreprises qui sont saines, des groupes qui sont sains. J'ai deux de mes adhérents qui a plus de 150 salariés, un qui en a 300. Ce ne sont pas des petites entreprises, vous en conviendrez, et qui vont être en cessation de paiement d'ici la fin du mois. S'ils ne rouvrent pas, ils sont en cessation de paiement. Donc ça veut dire que dans 45 jours, ils sont en redressement judiciaire. Nous allons, mais vraiment, droit dans le mur. Et au pire, on se pose même la question, à un moment donné, de pouvoir forcer la main, je dirais, à l'État, voire même de se poser la question d'engager des recours pour demander la réouverture. Donc là aussi, ce modèle, notre modèle aujourd'hui, ne peut pas supporter sur le secteur du textile et de l'habillement et d'une manière générale dans le commerce, ne peut pas supporter des baisses de chiffre d'affaires aussi importantes que ça, surtout nous dans le secteur du textile et de l'habillement, pour la bonne et simple raison, c'est que nos achats, nous les avons faits il y a plus d'un an. Là, on est arrivé à un point de rupture, de faillite. C'est dramatique pour notre économie, c'est dramatique pour l'emploi, c'est dramatique pour le secteur de l'habillement et du textile indépendant, sauf à considérer qu'on veuille brader des pans entiers de notre économie chez Amazon.
De la pluie sur les Pyrénées, la façade atlantique et les frontières de l'Est, de la neige sur les Alpes à partir de 2000 mètres. Le ciel sera variable sur le nord et sur le bassin parisien. Les températures iront cet après-midi de 11 à 20 degrés. Gabriel Olivier Aguillon.
Merci beaucoup Olivier Denré. Prochain journal sur France Musique à 13h et nous on se dit à demain.
À demain matin.
À réécouter sur francemusique.fr.